Les ateliers de la pensée.
Bienvenue sur l'écho des planches. Nous vous proposons sur notre radio de réécouter les ateliers de la pensée enregistrés au jour le jour par nos soins au cloître Saint-Louis et aux ateliers de la pensée dans le jardin de l'Université d'Avignon.
Bonne écoute à tous.
Bonjour à toutes et à tous, David Poget pour l'écho des planches. Je suis actuellement en compagnie de Dominique Méda, sociologue, philosophe, spécialiste de la place du travail dans nos sociétés et auteur de nombreux ouvrages. Bonjour madame.
Bonjour.
Donc vous êtes inspectrice générale des affaires sociales, directrice de recherche au Centre d'études et de l'emploi, et vous étiez la conseillère travail de Benoît Hamon, le candidat socialiste à la présidentielle. Et vous venez justement d'intervenir aux ateliers de la pensée sur le thème du travail. Est-ce que justement vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre venue à Avignon et la thèse que vous avez développée aux ateliers de la pensée ?
Volontiers. Alors d'abord, je fais un léger correctif, je ne suis plus au Centre d'études de l'emploi, mais aujourd'hui je dirige le laboratoire de sciences sociales de Dauphine qui s'appelle l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales, voilà l'IRISO. Alors quelle est la thèse que je suis venue défendre ? Je suis venue présenter un peu des scénarios, non pas de la prospective, mais des scénarios d'évolution du travail, et j'ai d'abord rappelé dans quel contexte s'inscrivait notre réflexion, c'est-à-dire le fait que nous sommes des sociétés fondées sur le travail, c'est-à-dire le travail structure nos sociétés, structure les rapports sociaux. J'ai rappelé que les attentes qui sont portées aujourd'hui sur le travail sont tout à fait intenses, et encore plus en France qu'ailleurs. Et j'ai rappelé également que ces attentes ne sont pas satisfaites pleinement aujourd'hui, et qu'on se trouve en France, mais aussi ailleurs, dans une double crise du travail et de l'emploi. De l'emploi parce que c'est le taux de chômage, très important, et une crise du travail, c'est-à-dire des conditions de travail assez médiocres, notamment en France. Et donc, quand on cherche à distinguer ou à peut-être essayer de discerner quelles vont être les évolutions du travail désirables, il faut voir celles qui sont susceptibles de résoudre à la fois peut-être la crise de l'emploi et la crise du travail. Donc je vais très vite, j'ai distingué trois scénarios. Un scénario que j'ai appelé le scénario du démantèlement du droit du travail, dans la droite ligne des réflexions de l'OCDE à la fin des années 80, c'est-à-dire cette idée que pour créer de l'emploi, il faut supprimer les règles qui entourent notamment la rupture du contrat de travail. Ensuite, j'ai parlé du scénario de la révolution technologique, cette idée qui est très très en vogue en ce moment depuis quelques années, notamment depuis les travaux de plusieurs économistes dans les années 2010-2011, qui nous dit que on va avoir de très fortes suppressions d'emplois dans les années à venir du fait de l'automatisation, mais que le travail lui va changer, qu'on aura un travail plus collaboratif qui se distinguera peut-être moins du loisir. Et j'ai indiqué que ces deux scénarios avaient un certain nombre d'inconvénients, ne permettait pas de répondre totalement à la question, à la crise du travail et de l'emploi. Et j'ai proposé un troisième scénario que j'ai intitulé le scénario de la reconversion écologique, qui me semblait, lui, susceptible de bien répondre à ces deux questions. C'est un scénario qui prend au sérieux la question du changement climatique et de la nécessaire révision, réforme de nos modes de production et de consommation, et qui, je crois, permet à la fois de créer des emplois et de changer radicalement les conditions de travail, et qui met aussi au centre de sa réflexion la question de la croissance.
Donc j'ai écouté votre conférence aux ateliers de la pensée, et vous avez défendu une politique de réduction du temps de travail pour permettre à tous de travailler. Et moi, il m'a semblé que durant la campagne présidentielle, c'était une idée fortement vilipendée par la droite, mais également par la gauche. Et cette question était immédiatement associée au débat sur un supposé affaiblissement de la valeur travail. Je me souviens d'Emmanuel Valls qui disait s'opposer à une société du farniente. Quel regard portez-vous justement sur ce débat de l'affaiblissement de la valeur travail, sur cette question de la réduction du temps de travail ?
Alors j'ai peur d'avoir contribué à lancer ce débat parce que j'avais écrit un livre en 1995 que j'avais malencontreusement intitulé « Le travail, une valeur en voie de disparition ». Donc voilà, je crains d'avoir contribué à ouvrir une brèche permettant à un certain nombre de responsables politiques de dire que le travail n'était plus une valeur en France. Alors évidemment qu'il n'en est rien. Quand on regarde toutes les enquêtes dont on dispose depuis une vingtaine d'années, on voit que la valeur travail est plébiscitée par les Français. C'est même ceux qui la mettent le plus en avant. Hein. On a 67% dans la dernière vague de l'enquête, 67% des Français qui disent que le travail est pour eux très important. C'est un des taux les plus hauts en Europe et même dans le monde. Donc il n'y a pas de crise de la valeur travail. Il y a au contraire des gens qui veulent absolument se réaliser, s'exprimer, s'épanouir dans leur travail. Donc des attentes très 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 intenses et des attentes à la fois de nature instrumentale. Bon, le travail, ça permet de gagner un revenu, mais également d'énormes attentes qu'on pourrait appeler expressives et relationnelles, c'est-à-dire cette idée que dans le travail, je vais trouver de quoi dire aux autres qui je suis exactement, quelle est mon individualité, ma singularité. Donc très 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 important, il n'y a pas de crise de la valeur travail. Quant à et surtout, hein, vous savez aussi qu'on a mélangé, enfin on a profité de la politique de réduction du temps de travail avec les 35 heures pour dire que les 35 heures avaient affaibli la valeur travail, ce qui là encore est totalement faux. On a des enquêtes, les enquêtes sur le rapport au travail datent d'avant et après la réduction du temps de travail. On ne voit absolument aucun impact sur la valeur accordée au travail. Et pour répondre sur un autre plan, hein, est-ce que cette politique de réduction du temps de travail est une politique intéressante, notamment pour créer des emplois? Oui, c'est une politique très intéressante parce que d'abord, elle permet de donner accès à tout le monde à cette valeur qui est très désirée. Elle permet aussi de redistribuer le travail. Si vous voulez, il y a des tas d'économistes aujourd'hui qui nous disent que ça n'est pas possible de partager le travail. Or, moi, je crois que c'est tout à fait possible de partager le travail. À tout instant, vous avez un certain nombre d'heures de travail disponibles dans la société, mais vous pouvez les répartir de façon tout à fait différente. Zéro à certains, 70 heures par semaine à d'autres, etc. C'est très intéressant de comparer, par exemple, les modalités de partage en France et en Allemagne. En France, il y a une assez grosse convergence vers une durée du temps de travail à temps complet plus courte qu'ailleurs, par exemple plus courte qu'en Allemagne. En Allemagne, la durée du travail à temps complet est plus longue, mais en Allemagne, il y a énormément de tout petits temps partiels, très mal payés, en général réservés aux services et aux femmes. Et donc, c'est un autre type de partage du travail. J'ai envie de vous donner un chiffre qui est qu'entre 1994 et 2004, en Allemagne, on a créé 4 millions d'emplois avec le même nombre d'heures de travail. Ça veut dire qu'on a fragmenté l'emploi et on a fait plein de petits temps partiels. Alors que nous avons réussi à conserver la majeure partie de la population autour d'une norme de travail plus courte. Donc vous voyez, je trouve que c'est un modèle très très intéressant. Et pour finir, si on regarde bien le temps de travail en durée hebdomadaire dans les différents pays, en France, en durée hebdomadaire, nous travaillons bien plus longtemps que les Suédois, les Néerlandais, les Danois, les Allemands, les Anglais.
37 heures à peu près.
37 heures en moyenne, oui. Donc si vous prenez bien, hein, temps partiel plus temps complet.
Et toujours en lien avec ce débat, la question du revenu universel que Benoît Hamon a défendu durant sa campagne, en développant l'idée que la révolution technologique qui arriverait aurait pour conséquence la destruction de nombreux emplois. Alors vous, votre position sur le sujet a évolué, comme vous l'avez rappelé hier à la conférence aux ateliers de la pensée. Et je voulais savoir quelle était votre position aujourd'hui et si vous pensiez que Benoît Hamon a manqué de clarté, de cohérence dans son projet en revoyant sa copie à de nombreuses reprises, faisant finalement de son revenu universel une sorte de super RSA.
D'accord. C'est en effet une question très, très importante. Je n'ai pas énormément évolué. J'étais pas du tout favorable au revenu universel dans sa version la plus, la plus large, qui consistait en gros à donner 800 euros à tout le monde systématiquement et à les donner vraiment. C'est-à-dire, je distribue à toutes les personnes 800 euros et puis ensuite je récupère par l'impôt. En revanche, lorsque Thomas Piketty et Julia Cagé m'ont proposé de signer avec eux une tribune proposant une nouvelle version du revenu universel qui en gros consistait en à donner une allocation aux jeunes, ce qui me semble très très important, et puis à garantir à tout le monde un revenu universel de 700 euros, mais avec une opération tout à fait virtuelle, consistant à dire, bah, telle personne, je vais lui donner 700 euros, mais ensuite je récupérerai, étant donné ses revenus, je récupérerai telle somme, et donc finalement, je récupérerai tout, par exemple, donc je ne lui verse même pas. Si vous voulez, ça m'a paru extrêmement intéressant, parce que d'abord, ça permettait de corriger un des grands dysfonctionnements de notre système socio-fiscal, qui est de frapper très fort les très faibles revenus dès le premier euro à cause de la CSG. Donc là, ça permettait de repousser le choc du prélèvement, quoi. Donc l'ensemble me semblait très intéressant. C'est pour ça que j'ai tout à fait souscrit, et je crois que c'est pour ça que Benoît Hamon a également été tout à fait séduit par cette proposition. C'est vrai que dans la campagne, il a donné l'impression de passer d'une version du revenu universel à l'autre, mais je ne crois pas qu'il y ait de si gros changements, si vous voulez, parce que simplement, peut-être qu'on ne l'a pas assez bien expliqué, hein, l'idée c'était que ce revenu universel était garanti absolument à tout le monde, mais qu'on n'avait pas besoin de passer par l'opération concrète de versement à partir du moment où la personne gagnait suffisamment. Voyez. Voilà, donc là aussi, hein, ça me paraît une idée très intéressante. Je ne peux pas dire que je reprocherais quelque chose à Benoît Hamon, parce que cette campagne était une campagne extrêmement difficile. Je pense qu'il a mis dans le débat des questions extrêmement importante et intéressante. Il a été le seul à le faire. La question de l'automatisation, des effets, de l'impact de l'automatisation sur l'emploi, c'est une question absolument déterminante. Peut-être il a été parfois un peu trop vite, hein, il a été peut-être un peu trop simple pour frapper l'imagination des gens en disant voilà, c'est la fin du travail et donc il faudra mettre en place un revenu universel. Je pense qu'on aurait pu être plus nuancé, mais c'est très difficile dans une campagne présidentielle d'être très nuancé.
C'est vrai que Benoît Hamon avait un discours économique qui tranchait avec l'orthodoxie, on va dire, et notamment sur cette notion de croissance comme seul horizon possible. J'ai l'impression que le discours dominant est qu'il faut renouer avec la croissance pour lutter contre le chômage, qu'il faut être plus compétitif, qu'il faut réduire drastiquement les dépenses publiques. Et selon vous, est-ce qu'une politique de ce type permet de renouer avec la croissance et de lutter contre le chômage, ou pensez-vous qu'il est nécessaire d'opérer un changement de paradigme économique ?
Solution numéro 2. Oui, c'est absolument nécessaire d'opérer non seulement un changement de paradigme économique, mais je crois un changement de référentiel. J'ai appelé ça hier une grammaire, c'est-à-dire que nous sommes enserrés dans des conceptions, dans des équations, des représentations qui sont extrêmement rigides. Hein. Par exemple, notre comptabilité nationale, ce n'est pas seulement un petit instrument qui nous sert à calculer. Ça organise complètement notre représentation du monde. Et c'est une représentation du monde qui aujourd'hui est datée, limitée et dangereuse, comme l'avait reconnu Joseph Stiglitz dans le rapport qu'il avait rendu à Nicolas Sarkozy en 2009, un rapport sur les limites du produit intérieur brut. Il avait reconnu de façon tout à fait clair que le PIB n'était pas un bon indicateur et que le PIB, le produit intérieur brut notamment, n'était pas un indicateur d'alerte, c'est-à-dire des inégalités sociales qui vont trop loin et qui risquent de nuire à la cohésion sociale, ou des dégâts apportés au patrimoine naturel qui finissent par rendre la terre inhabitable. Le PIB n'est absolument incapable de nous le montrer, de rendre cela visible, parce que par construction le produit intérieur brut cache ces choses-là. Il ne s'intéresse pas aux dégâts. Et donc mon raisonnement consiste à dire que il faut absolument changer d'outil de représentation, de grammaire, pour rendre visibles ces dégâts et donc pour mener d'autres politiques. Et je crois aussi qu'il faut maintenant absolument cesser de chercher à obtenir des gains de croissance, qu'il faut au contraire raisonner. Alors nous, avec d'autres économistes avec lesquels je travaille, par exemple Florence Janicatrice ou Jean Gadret, on parle de société post-croissance, de raisonnement post-croissance, et on n'essaye plus d'atteindre la croissance, on essaye d'atteindre la satisfaction des besoins sociaux sous réserve de la durabilité de la société dans laquelle on vit. Donc voilà, faut changer absolument tous nos instruments. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas relancer l'activité, il faut relancer l'activité, mais une activité exclusivement destinée à satisfaire les besoins sociaux sous réserve de la qualité de l'environnement et de l'écologie, mais certainement pas relancer à tout va.
Alors je vais rebondir sur ce que vous dites. Aujourd'hui, il semble que les mots sont dénaturés par ce que j'appelle une novlangue économique qui impose ces schémas de pensée. Et du coup, je voulais savoir, vous, en tant que sociologue, n'estimez-vous pas que ce discours économique ou cette novlangue économique inhibe toute réflexion et vous empêche justement de défendre votre politique de réduction du temps de travail comme une revendication démocratique, une émancipation face à la souffrance au travail ou au burn-out, toutes ces idées que Benoît Hamon a défendues dans son discours? Quelle est justement la part de la responsabilité de ce langage, cette nouvelle langue économique qui règne au détriment du social?
Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions dans cette question que vous posez. Alors, on a reproché aussi à Benoît Hamon de ne parler de, du travail que comme d'une souffrance et de dire que puisque c'était une souffrance, il fallait réduire le temps qui était occupé par le travail pour développer d'autres activités. Donc là encore, je pense qu'il faut faire attention. Il ne pensait pas du tout ça, mais là encore, le message est mal passé, hein. Le travail peut être pour certains une souffrance. Je renvoie à la plus récente enquête dont on dispose, qui est la grande enquête que la CFDT a fait passer. La CFDT a souvent communiqué sur le fait que 77% des gens disaient qu'ils étaient heureux au travail, mais parallèlement, vous avez 40% des ouvriers et des employés qui disent que le travail, leur travail, nuit à leur santé, ce qui est extrêmement fort quand même. Donc on est bien obligé de prendre en considération cette double phase du travail et il faut absolument en effet pouvoir corriger cela. Hein. Donc, le raisonnement consiste pas du tout à dire le travail c'est une souffrance, donc hop, on réduit au maximum sa place pour faire d'autres choses. Il faut à la fois réduire sa place pour le redistribuer et faire d'autres choses, mais il faut en même temps travailler pour améliorer l'organisation du travail. Maintenant, est-ce que le discours économique et la novlangue, je crois... Alors, c'est intéressant ce terme de novlangue, parce que oui, l'économie est un langage. J'ai presque envie de dire que c'est plus qu'un langage, je vous disais, c'est une grammaire, c'est-à-dire que c'est un système de représentation du monde. Là où vous avez entièrement raison, c'est que c'est le système dominant aujourd'hui. Alors, c'est pas toute l'économie, c'est une certaine économie. Par exemple, quand on regarde les propositions de l'OCDE depuis la fin des années 80, il y a une alliance, et d'ailleurs l'OCDE était complètement, je dirais, phagocytée par un type d'économistes très particulier. Ce sont les économistes néo-keynésiens qui disent donc avoir intégré le raisonnement keynésien, donc ils intègrent le rôle des institutions. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pour eux, une institution, c'est par exemple les règles qui entourent la rupture du contrat de travail ou bien l'indemnisation du chômage. Et donc, ils vont raisonner en disant que les institutions ont une responsabilité dans le chômage. Et donc, ils vont faire des corrélations entre la législation protectrice de l'emploi et le chômage. Donc, c'est à la fois cette novlangue des économistes, mais plus généralement leur représentation du monde, qui en effet alors nous inhibe, parce qu'il y a une sorte d'alliance entre ce langage-là et, je ne sais pas comment dire ça, mais peut-être on pourrait dire les intérêts de grandes multinationales, l'idéologie qui pense que la circulation des capitaux à l'échelle mondiale, la libre circulation est quelque chose de très bon. Donc oui, on a bien une chape de plomb idéologique qui pèse aujourd'hui sur nous et qui nous empêche de montrer combien un certain nombre de politiques, comme la réduction du temps de travail, pourraient être tout à fait intéressantes.
Et chose étonnante, ce discours économique trouve également un écho au sein de la gauche, convertie au libéralisme. Pour moi, l'exemple paradigmatique étant François Hollande, du discours de Bourget, mon ennemi c'est la finance, à sa politique de l'offre, par la suite avec le CICE, la loi El Khomri, la loi Macron. Et vous, qui avez soutenu un candidat qui s'est opposé à ces réformes, mais qui a fini finalement avec 6% des suffrages, quel regard portez-vous sur la gauche ou ces gauches irréconciliables, pour citer Manuel Valls? Et pensez-vous, justement, que cette incapacité de la gauche à défendre un autre discours économique explique l'incapacité de notre société à penser le monde d'après-demain, pour reprendre l'intitulé de votre conférence d'hier?
La réponse est oui. J'avais écrit dans Le Monde un article, juste après la victoire de Trump, j'avais écrit un article que j'avais intitulé « L'écrasante responsabilité de la gauche ». Et je pensais à la fois à l'écrasante responsabilité de la gauche dans la victoire de Trump et dans ce qui allait nous arriver, qui n'était pas... Et qu'est-ce que c'est que cette écrasante responsabilité? En effet, c'est d'avoir changé de corpus idéologique. C'est-à-dire à partir du moment où la gauche se met à faire la même chose ou à revendiquer la même chose que la droite, alors les gens sont complètement perdus. Et l'opposition, ça ne peut être que Marine Le Pen, en effet. C'est-à-dire ce qu'on a vu se produire. Donc, je pense que la... Oui, et je vous parlais de cet article dans Le Monde parce qu'il a eu 17 000 partages, donc quelque chose d'absolument énorme. Et donc, j'ai bien senti que ça correspondait tout à fait à ce que pensait une partie de la population, c'est-à-dire cette absence totale de repères, cette confusion mentale extrême qu'a provoqué en effet le basculement voulu, délibéré de François Hollande et d'une partie de la gauche française vers des politiques qui sont traditionnellement revendiquées par la droite. Donc je pense que la responsabilité de cette gauche, elle est bien plus grande que tout ce qu'on peut encore dire aujourd'hui. Elle est absolument immense. C'est à cause d'elle qu'on a eu ces élections quand même épouvantable qu'on a vécu, hein, avec des gens totalement perdus. Et puis, aujourd'hui encore, tous ces gens qui ne savent plus quoi faire et qui se demandent comment et sur quelle base on va reconstruire la gauche.
Et après avoir parlé de la gauche, parlons d'Emmanuel Macron. Ni de droite, ni de gauche, comme il le dit. Alors que le gouvernement d'Édouard Philippe entend réformer le Code du travail, qui est le projet phare d'Emmanuel Macron, qui semble s'inspirer du modèle danois de la flexi-sécurité, pensez-vous que le Code du travail constitue un frein à la création d'emplois? Et selon vous, est-ce que les entreprises auraient peur d'embaucher, comme on le dit?
Alors là encore plusieurs réponses. Ça fait très longtemps que je travaille sur le modèle danois et la flexicurité. J'avais écrit avec le conseiller social dans les pays nordiques, le conseiller social français dans les pays nordiques en 2006, un petit livre qu'on avait intitulé « Faut-il brûler le modèle social français ?» et qui était une sorte d'éloge du modèle nordique. Et on finissait dans ce livre, sans doute un peu naïvement, hein, par dire qu'il fallait s'inspirer en effet du modèle nordique. Donc tout ça pour vous dire que je le connais bien et que ce qu'on en raconte est quand même absolument... manque de nuance, quoi. C'est-à-dire... Cette idée que là-bas, la flexibilité serait extrêmement répandue, que ça serait facile de licencier et qu'il suffirait ensuite de faire des politiques actives pour accompagner les gens, ça ne marche pas comme ça là-bas. Quand vous avez 80% de taux de syndicalisation, vous ne pouvez pas licencier comme vous voulez. Donc, il faut vraiment faire attention dans les comparaisons, il faut vraiment bien prendre les aspects qui comptent. Et je rappelais hier dans le débat sur l'après-demain du travail, je rappelais l'expérimentation du CNE, hein, qui me paraît très très intéressante et très importante. Pourquoi ? Parce que Dominique de Villepin, en 2005, a présenté la mise en œuvre du contrat Nouvelles Embauches comme l'introduction en France de la flexicurité. Parce que déjà à l'époque, la mesure battait son plein. Enfin, hein, on essayait de dire qu'il fallait faire de la flexicurité en France. Or, on n'a jamais su, en France, développer vraiment le volet de sécurité. Donc moi, dès ce moment, j'avais dit qu'il fallait donc bien plutôt commencer par la sécurité pour stabiliser les personnes et ensuite, si on voulait, peut-être, si nécessaire, faire un peu plus de flexibilité. Mais on a déjà énormément de flexibilité. On a des dizaines de types de contrats. On a plein de moyens de se séparer des gens comme on veut. La rupture conventionnelle, il y a je crois maintenant des millions de ruptures conventionnelles qui ont vraiment rendu hyper facile le fait de la séparation. Donc je ne crois, mais alors c'est pas seulement que je crois, c'est pas une petite croyance personnelle, c'est que les études montrent très clairement que cette prétendue peur d'embaucher parce qu'on ne pourrait pas licencier est vraiment un fantasme. C'est-à-dire, peut-être que des employeurs pensent ça, d'accord, faisons leur crédit, mais est-ce que parce qu'un employeur pense quelque chose, il faut tout reconstruire pour prendre en considération son fantasme? Non, je crois qu'on ferait mieux de l'aider à guérir son fantasme.
Et un autre débat également, les effets de la mondialisation sur le travail et l'emploi. Alors pour ses détracteurs, Emmanuel Macron est le candidat de la France qui va bien, de la mondialisation heureuse, pour citer Alain Minc. Et on l'a vu durant l'entre-deux-tours à l'usine Whirlpool d'Amiens. Finalement, c'est le discours de Marine Le Pen qui trouve un écho plus fort. Marine Le Pen qui s'oppose aux délocalisations, qui est pour un protectionnisme solidaire, comme elle le dit. Alors je voulais savoir, vous en tant que spécialiste de la place du travail dans nos sociétés, quels sont les effets de la mondialisation sur le travail et les emplois? Et que pensez-vous du concept de démondialisation qui était notamment défendu par Arnaud Montebourg?
Alors, deux mots sur Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle a eu l'habileté extrême de se placer sur le terrain de, il faut le dire les choses clairement, hein, de la gauche. Elle a tenu sur le travail un discours de gauche. Moi, ça m'avait énormément frappé. On avait fait une enquête, une grande enquête avec France Inter sur le travail pour la campagne présidentielle de 2012 et on avait invité tous les candidats à venir discuter des résultats. Elle avait été sans conteste, de loin, la meilleure. Elle était celle qui avait revendiqué de rendre leur dignité aux travailleurs, d'augmenter les salaires. Enfin, elle avait véritablement un discours de gauche. Donc, il y a là quelque chose qu'on doit prendre très au sérieux puisque ça empêche la gauche, d'une certaine manière, d'avoir un discours aussi fort sur ce qu'il faudrait faire. Après, sur la démondialisation, moi, il me semble qu'on est en effet en phase de démondialisation et qu'en tout cas, il est certain que l'automatisation fait partie de la mondialisation, et la mondialisation elle-même, par l'intense circulation des capitaux qu'elle a entraînée et par la, la compétition qu'elle a suscitée entre les législations nationales du travail a contribué à baisser les protections du travail. Parce qu'en effet, chaque pays essaye d'attirer des investissements étrangers et donc de rendre et le coût du travail et les règles qui encadrent le travail plus légères. Donc oui, ça a eu évidemment un impact. Et il me semble que c'est vraiment le sujet qui est sur la table pour les années à venir, c'est-à-dire savoir comment on va pouvoir remettre à leur place ces multinationales qui jouent de ces droits du travail nationaux et qui s'amusent à s'installer dans un territoire en récoltant les aides publiques, puis à le quitter brutalement sans dépolluer les sites, sans s'occuper de reconvertir les personnes qui souvent essayent de ne pas payer. Souvenez-vous l'affaire Molex. Molex, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, mais l'entreprise mère n'a pas payé parce qu'on n'a pas pu prouver qu'il y avait du co-emploi, on n'a pas pu prouver qu'elle était responsable de ce qui se passait. Donc là, il y a un sujet extrêmement important. Il faut en effet remettre des règles. Moi, je ne suis pas sûre que ça soit la bonne méthode, mais il faudrait qu'on ait des normes internationales beaucoup plus fortes, celles qui sont édictées par l'Organisation internationale du travail, et qu'on rende ces normes impératives, qu'on les contrôle, qu'on sanctionne leur non-respect. Aujourd'hui, c'est plutôt l'OMC qui a la haute main sur les règles internationales. Donc oui, il faut, sinon démondialiser, au moins remettre des règles extrêmement fortes dans la mondialisation.
Alors j'ai une dernière question pour vous, Dominique Méda. Je vais savoir ce que vous pensiez du salaire à vie défendu par Bernard Friot et qui est pensé comme une alternative au capitalisme, contrairement au revenu universel. Est-ce que justement ce n'est pas une proposition qui permet d'opérer un changement de paradigme économique comme vous le souhaitez ?
Je suis très, je connais bien Bernard Friot, j'ai souvent débattu avec lui. Sa proposition séduit beaucoup de gens, beaucoup de jeunes notamment. Et ne serait-ce que ça, je trouve ça intéressant et donc vraiment à prendre en compte. Elle me semble aussi difficile que d'autres à mettre en place parce que ça consiste à considérer que tout ce que nous faisons de la naissance à la mort est du travail et donc mérite une rétribution. Nous apportons quelque chose à la société tout au long de notre vie. La retraite n'est pas un moment où on a arrêté de travailler, mais ça, c'est la continuation de la vie de travail d'une certaine manière. Et donc, il faudrait qu'il y ait une contrepartie financière à tout ça. Alors, c'est cette première idée qui me gêne, c'est-à-dire de considérer que tout ce que nous faisons de la naissance à la mort est du travail. Pour moi, mais là, je suis peut-être à contre-courant des évolutions, puisque l'Organisation internationale du travail, qui réfléchit sur la définition du travail, vient de reconnaître que le travail, c'était en gros toute activité productive autre que le soin de soi. Donc c'est un champ absolument immense. Cette définition me gêne parce qu'elle ne distingue pas suffisamment le travail pour soi et le travail pour autrui. Le travail pour autrui qui mérite une rémunération. Et je ne crois pas qu'on puisse dire que de la naissance à la mort, on fait et mobilisé du travail pour autrui. Ce qui me gêne aussi dans la proposition de Bernard Friot, c'est que je vois, donc ça consiste en effet, je ne vois pas très bien. C'est très très difficile à dire en peu de mots. Si vous voulez, dans son système, on rentre en quelque sorte à un certain niveau. Il y a 4 niveaux, si je me souviens bien, dans sa proposition. On rentre à un certain niveau qui correspond à sa qualification. Je ne comprends pas bien comment on acquiert cette qualification et comment on en sort. Donc je trouve que tout le système est un peu lourd. J'aime beaucoup l'idée de cotisation, de la cotisation sociale, c'est-à-dire en effet, on fait un gros prélèvement pour gérer des institutions collectives. Ça, j'aime beaucoup ça. Mais voilà, c'est intéressant. J'aimerais bien qu'on en discute encore plus à fond parce que tout n'est pas encore clair pour moi.
Eh bien, merci beaucoup, Dominique Méda, pour vos réponses. Et je vous souhaite un bon festival si vous restez quelques jours à Avignon.
Merci. Merci beaucoup pour cet entretien très, très, très intéressant. Merci.
Merci beaucoup, à bientôt. C'était David Poget pour L'écho des planches.